Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La bicyclette bleue de Régine Desforges. La bicyclette bleue est un roman historique de Régine Desforges, paru en 1981. Il est le premier tome d'une trilogie dont l'action se déroule pendant l'occupation allemande de la France. La bicyclette bleue est surtout le premier livre d'une saga comprenant 10 ouvrages. Le titre se réfère aux moyens de locomotion utilisés par Léa pour passer la ligne de démarcation. En été 1939, Léa Delmas, 17 ans, est une belle jeune fille insouciante, un peu sauvageonne, vivant au sein d'une famille unie propriétaire du vignoble de Montignac, près de Bordeaux. Sa famille comprend ses parents, Pierre et Isabelle, et aussi ses deux sœurs, Françoise l'aînée et Laure la cadette. Léa était prise d'un voisin, Laurent d'Argila, mais celui-ci, bien qu'éprouvant de forts sentiments pour elle, épouse sa cousine Camille, jeune femme, d'apparence terne et fragile. Leur fiançailles sonne également le début de la Seconde Guerre mondiale. Léa, furieuse, se fiance avec le frère de Camille, Claude, mais ce dernier meurt dès les premiers jours de la guerre. Léa rencontre à l'occasion des fiançailles de Laurent et Camille un homme plus âgé qu'elle, François Tavernier, entouré d'une aura mystérieuse. Il ne lui cache pas qu'il souhaite faire d'elle sa maîtresse. Léa s'en défend, bien qu'elle se sente étrangement attirée par lui. Quand les Allemands envahissent Paris, Léa et Camille, au plus mal, rejoignent des milliers de Français sur les routes de l'Exode, avec son cortège de bombardements et d'horreurs. Leur voyage se révèle long et périlleux. En effet, l'état de santé de Camille se dégrade et les deux amis se voient contraints d'emménager quelque temps à Montmorillon, un village sur leur trajet. Le médecin conseille alors à Camille de rester allongée jusqu'à son accouchement, mais cette dernière, sentant Léa inquiète et pressée de revoir sa famille, décide de prendre la route malgré l'avis du médecin. En arrivant près de Montillac, Camille ressent des contractions et Léa se voit obligée de demander de l'aide aux Allemands d'un poste de garde, seule personne disponible. Elle parvient, grâce à eux, à faire accoucher Camille, mais elle découvre aussi qu'ils réquisitionnent le domaine et qu'ils sont à l'origine de la mort de sa mère, Isabelle. Tout se complique ensuite. Sa famille est partagée entre un oncle, Luc, qui s'avère collaborateur et fier de ses amitiés avec les Allemands, et son autre oncle, le dominicain Adrien, qui est très engagé dans la résistance de la région bordelaise. Malgré elle, Léa se retrouve au cœur des situations complexes engendrées par l'occupation. Gestion du domaine, convoitise des voisins en raison des difficultés financières, liaison entre sa sœur Françoise et un Allemand. Léa intègre instinctivement la résistance intérieure française tout en poursuivant sa liaison chaotique avec Tavernier. Son amitié forcée avec Camille devient réelle, notamment grâce à son bébé, prénommé Charles. Ses sentiments pour Laurent s'estompent peu à peu pour laisser place à une vraie passion pour Tavernier, même si elle se retrouve pendant quelque temps coincée dans une relation avec son ami d'enfance et collaborateur, qui menace de la dénoncer si elle refuse de l'épouser après la guerre. Régine Marie Léone Desforges est née le 15 août 1935 à Montmorillon, dans le Poitou, dans la Vienne. Régine Desforges est la fille d'un représentant de commerce et d'une dactylographe. Elle est élevée dans différentes institutions religieuses, dont le collège Saint-Martial, une école de sœurs. À l'âge de 15 ans, un amoureux éconduit lui dérobe son journal intime, où elle consignait ses pensées et l'amour qu'elle éprouvait pour une fille de son âge, qui travaillera plus tard dans sa maison d'édition. Cet épisode provoque un scandale local. Renvoyée de son institution, elle est contrainte de brûler ses autres cahiers. Très tôt, Les livres constituent son univers d'élection. Elle devient tour à tour libraire, éditrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine. Elle ouvre plusieurs librairies tant à Paris qu'en province et crée en 1968 sa propre maison d'édition, L'Or du Temps. Elle devient de ce fait la première éditrice française à créer sa propre maison d'édition. Régine Deforge n'a pas 20 ans. Elle rencontre l'industriel Pierre Spengler. 1928-2001, ils se marient le 6 novembre 1953. Ils ont un fils, Franck, aujourd'hui éditeur de littérature. Ils divorceront en avril 1965. En 1966, elle a une fille, Camille Deforge-Pauvert, future responsable des relations libraires Bellefond Presse de la Cité, avec l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. En 1979, elle a une seconde fille, Léa Wiazinski, future actrice, avec le dessinateur Pierre Wiazinski, dit Viaz, épousé à Paris le 30 janvier 1984. En 1981, son roman « La bicyclette bleue », premier de 3 tomes composant l'ouvrage, connaît un grand succès populaire, plus de 10 millions d'exemplaires vendus, mais vaudra à Régine Deforge quelques démêlés judiciaires avec les héritiers de Margaret Mitchell, auteur d'Autant à l'emporte-le-vent, qui ne parviendront pas cependant à convaincre les juges que Régine Deforge avait plagié l'américaine. De 1989 à 1992, elle est présidente de la Société des gens de lettres. Elle est également membre du jury du Fémina, dont elle démissionne en 2006 en solidarité avec Madeleine Chapsal à la suite de son exclusion. Elle tient également une chronique à l'Humanité dont des recueils ont été publiés. À titre personnel, elle est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et co-signe en 2009 un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie. Régine Deforge meurt le 3 avril 2014 à l'hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris, des suites d'une crise cardiaque. Elle repose au cimetière du Montparnasse, aux côtés de sa belle-sœur, Anne Wiazinski. Août touchait à sa fin. Léa, la deuxième fille de Pierre Delmas, qui venait d'avoir 17 ans, les yeux mi-clos, assise sur la pierre encore chaude du petit mur de la terrasse de Montignac, tournée vers la plaine d'où montait certains jours l'odeur marine des pins, balançait ses jambes nues et bronzées, aux pieds chaussés de basadaises rayées. Les mains appuyées sur la murette de part et d'autre de son corps, elle se laissait aller au voluptueux bonheur de sentir sa chair vivre sous sa célèbre légère robe de toile blanche. Elle soupira de bien-être et s'étira avec une lente ondulation, telle sa chatte Mona quand elle se réveillait au soleil. Le premier lever, Pierre Delmas prenait un mauvais café, tenu au chaud par la servante sur un coin de l'antique cuisinière. Puis, sifflant son chien, il sortait, l'hiver dans la nuit et l'été dans le petit matin triste qui précède de l'aube. Il aimait l'odeur de la terre quand tout dort encore. Souvent, le jour le surprenait sur la terrasse, le visage tourné vers la ligne sombre des Landes, vers la mer. On disait dans la famille que son seul regret était de n'avoir pas été marin. Enfant, il passait à Bordeaux de longues heures sur le quai des Chartrons, à regarder entrer et sortir les cargos. Il se voyait capitaine d'un de ses navires, sillonnant les mers, affrontant les tempêtes, seul maître à bord après Dieu. Un jour, on l'avait retrouvé caché dans la cale d'un charbonnier en partance pour l'Afrique. Rien, ni menace ni caresse, n'avait pu lui faire dire comment il était monté sur le navire, ni pourquoi il avait voulu quitter ainsi, sans explication, une mer qu'il adorait. Depuis, il n'avait plus jamais rôdé sur ces quais encombrés de marchandises au parfum d'aventure, de goudron et de vanille. J'ai des bonheurs, mais jamais un bonheur complet. Je suis habité par une souffrance aiguë, confuse et profonde, qui ne me quitte jamais. À 20 ans, je voulais écrire un livre sublime. Maintenant, je me contenterai d'un bon livre. Car ce livre, Léa, je le porte en moi. Mon travail d'écrivain, c'est le seul que j'aime vraiment. Et c'est le seul que je ne parviens pas à faire. Tout me distrait et m'entraîne. Je m'éparpille. J'ai l'ambition d'une gloire future, mais pas d'ambition quotidienne. Tout me lasse très vite. J'aime tout le monde et personne, la pluie et le beau temps, la ville et la campagne. Je garde au fond de l'âme la nostalgie du bien, de l'honneur et des lois dont je ne me suis jamais soucié. Quoique fâché de ma mauvaise réputation, j'ai la faiblesse d'en tirer vanité. Ce qui me nuit, voyez-vous, c'est de n'être pas un vicieux absolu, d'être généreux jusqu'à l'extravagance, le plus souvent d'ailleurs par lâcheté, de n'avoir jamais fait semblant d'être un demi-vertueux, c'est-à-dire, comme tout le monde au fond, de préférer les mauvais garçons aux hypocrites qui prétendent n'avoir de l'honneur alors qu'ils en ont à peine plus que moi. Je ne m'aime pas, mais je ne veux du bien. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.